Et on retrouve à l'instant Olivier Brogard pour parler sport. On va regarder avec lui ce qui a marqué la dernière semaine sportive. Olivier, bonjour.
Salut, comment ça va?
Ça va bien toi-même?
Ça va très bien, merci.
Merveilleux, ça doit bien aller aussi pour Audrey Leduc, pour qui, ça, j'allais dire, ça court vite. Là. C'est un peu ça, c'est une athlète du 100 mètres qui est originaire de Gatineau.
Oui, c'est un très, très, très bon jeu de mots. Écoute, c'est incroyable ce que cette Gatinoise-là a fait au courant des derniers jours. Elle a passé tout près, il y a quelques semaines, d'obtenir le standard de qualification pour les Jeux olympiques. Il y a à peu près 3 semaines, là, avec un temps de 11.08 secondes. Mais là, il n'y a pas plus tard qu'il y a quelques jours à peine, elle a surpassé ça, justement, en Louisiane, avec un chrono de 10 secondes et 96 16e. Écoute, c'est tellement impressionnant parce que, premièrement, elle vient de battre le record d'une Canadienne. Elle vient de passer, dans le fond, comme la Canadienne la plus rapide de l'histoire du 100 mètres avec cette marque-là. Et elle se met, évidemment, en très, très bonne position pour les Jeux olympiques de Paris. Mm-hmm. Écoute, c'est énorme. Puis je ne sais pas si les gens réalisent à quel point c'est intéressant de voir qu'une Gatinoise comme ça vient de se démarquer à l'échelle nationale, internationale plutôt. Ça vient de nous dire que Audrey là, pourrait vraiment être en bonne position pour les Jeux olympiques. Évidemment, il y a des qualifications encore à faire, mais pour elle, ça a été incroyable. Sa progression là est tout simplement incroyable parce que présentement, elle fait partie justement de l'équipe du Rouge et Or de l'Université Laval. Puis depuis que, justement, la saison 2024 est commencée, c'est des temps records qu'elle a fait. Là, je vous parlais du 11.38 secondes mm-hmm. qu'elle a fait. Faut dire que depuis le début des Jeux universitaires, là, elle trône au sommet. C'est elle, dans le fond, la tête d'affiche de l'Université Laval. Puis c'est pas pour le dire, parce que là-bas, on en a vu des athlètes passer qui ont jamais même passé proche de se qualifier pour les Jeux olympiques. Et dans son cas, ben là, on parle d'elle comme la meilleure prétendante, ou du moins, en tout cas, l'athlète la plus sérieuse là, en vue des Jeux olympiques comme première participation aux Jeux de Paris. Ça va se confirmer là, pour elle là, dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Il faut qu'elle continue sur sa lancée, mais honnêtement, c'est exceptionnel et on pourrait avoir une fille de Gatineau aux Jeux olympiques à l'épreuve du 100 mètres. Une épreuve qui, je ne sais pas pour toi, Sébastien, là, mais pour moi, quand je regarde les Jeux olympiques d'été, c'est une des épreuves que j'aime le plus regarder, c'est le 100 mètres. C'est impressionnant, mm-hmm. les athlètes derrière tout ça. Alors, chapeau à Audrey Leduc. Je pense que ça vaut vraiment un gros coup de chapeau aujourd'hui, là, puis surtout pour elle, de ce qu'elle vient d'atteindre comme plateau. Là.
Puis toute l'inspiration qu'elle peut donner, là, je pense à des championnats régionaux qui auront lieu là, dans quelques semaines là, à Gatineau, donc au niveau du secondaire, qui pourraient regarder une Gatinoise, ben, justement, là, se rendre aussi loin puis avoir des bons résultats. C'est sûr que c'est toujours motivant, là.
Absolument. Puis tu sais, ce qui fait en sorte que sa qualification n'est pas encore faite, malgré le fait qu'elle vienne connaître un temps record puis qu'elle est classée comme la Canadienne la plus rapide dans l'histoire là, du 100 mètres, c'est le fait qu'elle trône encore juste au 5e rang. Parce que
mondial,
elle a eu d'autres courses. Là. Mais elle peut améliorer cette position-là. Puis en améliorant sa position, écoute, elle peut pas être tassée des Jeux olympiques mm-hmm. par la suite parce que c'est tout simplement incroyable ce qu'elle fait.
Donc, à moins d'une débâcle, on a des bonnes chances de l'avoir aux Jeux olympiques. Là.
J'ai comme l'impression, mon ami.
Bon, ben merveilleux. Sinon, dans la NFL, le repêchage, ça débute?
Oui, ce soir à Détroit, la première ronde, ça va commencer. Ça va être intéressant parce que pour une deuxième fois en 2 ans, ben les Bears de Chicago vont avoir le tout premier choix. Écoute, les Bears, l'année passée, avaient échangé leur choix avec les Panthers de la Caroline. Mais là, quand tu regardes la formation des Bears de Chicago, puis c'est ça qui va attirer l'attention de la première ronde ce soir, c'est qu'est-ce que les Bears vont faire? Est-ce qu'on va aller chercher un corps arrière? Est-ce qu'on va aller chercher plus de stabilité à la défensive? Chose certaine, les Bears de Chicago vont attirer l'attention parce que eux, c'est le genre d'équipe de possession qui n'ont pas le droit de se tromper. L'an dernier, là, le fait de transiger ton premier choix, ça n'a pas été la meilleure chose. Là. Honnêtement, soyons honnêtes, les Panthers de la Caroline l'ont pris, ils ont profité justement d'un moment, je te dirais un moment de lacune, là, parce que ça a été une lacune du côté de l'état-major des Bears de transiger ce choix-là. Alors là, ça va être de voir qu'est-ce qu'on va faire, parce que Chicago, c'est des saisons décevantes par-dessus des saisons décevantes. On doit absolument relever la barque. Alors, c'est un repêchage qui va être intéressant pour eux. Moi, je pense que justement, ça va être l'équipe à suivre. Sinon, ben comme je te dis, le repêchage de la première ronde de la NFL, c'est particulier parce que généralement, les joueurs ne sont pas présents ou ne sont pas tous présents. Okay. Là, de ce qu'on comprend, la grande majorité vont être là à Détroit ce soir. Alors, ce sera l'occasion de voir les athlètes, justement, qui ont percé les rangs universitaires, qui ont qui ont fait le beau temps, dans le fond, dans les rangs universitaires, parce que la première ronde, c'est tous des joueurs que vous allez voir sur des terrains de football dès l'an prochain. Alors, c'est un événement qui est prisé, c'est un événement qui va être intéressant, mais je vous le dis, le nom à retenir ce soir, pas le nom à retenir, mais l'équipe à suivre ce soir, ce sera les Bears de Chicago, absolument. Les Commanders parleront au deuxième rang. Ensuite, les Patriots, les Cards, les Chargers, les Giants. Disons que c'est toutes des équipes qui en arrachent par les temps qui courent. Ça sera à suivre. Et justement, comme je vous disais, je pense que l'ordre complet du premier tour, là, les Bears qui parlent en premier et par la suite, ils vont parler encore une fois en première ronde au neuvième rang. Donc, l'équipe à suivre, ce sera les Bears de Chicago ce soir.
Merveilleux. Tu voulais aussi nous parler de recyclage, pas du bac qu'on a à la maison, mais de recyclage d'entraîneurs.
Oui, exactement. Parce que on suivait un peu de près ce qui se passait dans la Ligue nationale. Généralement, quand les équipes sont éliminées, c'est là que les bureaux administratifs font le ménage. Mm-hmm. Et du côté des Sabres de Buffalo, on avait hâte de voir ce qui allait se passer parce que les Sabres, encore une fois, c'est une grosse déception de ne pas faire les séries cette année. C'est une équipe qui est dans une phase, disons, presque finale de sa reconstruction, pas capable de se tailler une place en série. Et là, on congédie Don DeGranato. Et là, les Sabres de Buffalo, à la grande surprise de tout le monde, ont déjà annoncé son remplaçant. Et ce sera nul autre que Lindy Ruff. Lindy Ruff, là, pour ceux et celles qui se demandent c'est qui, ben il entraînait jusqu'à tout récemment les Devils du New Jersey. Mais c'est un gars qui roule sa bosse dans la Ligue nationale. Ça fait tellement longtemps qu'il est là. C'est un peu comme un chat. T'sais, il a 64 ans, mais il y en a 7. Là. Il y en a eu des chances dans la Ligue nationale. Il est probablement à sa 9e vie. Il a dirigé les Sabres, lui, de 1997 à 2013. Donc, c'est une figure marquante de l'histoire des Sabres de Buffalo. Il a été derrière le banc, là, d'ailleurs. Il est allé en finale de la Coupe cette année pendant la saison 98-99, pour les gens qui s'en souviennent. Il avait perdu aux mains des Stars de Dallas. Un peu dans la controverse, là, ceux qui ont suivi, justement, cette série-là, ça avait été assez rocambolesque. Mais de le voir arriver, parce que lui, il a été congédié également par les Devils de Lindy Ruff le 4 mars. Lui, il revient dans le giron des Sabres de Buffalo. On le nomme comme entraîneur-chef. Maintenant, est-ce que c'est l'homme de la situation? Il connaît le marché, ça c'est vrai. Mm-hmm. Mais de voir à 64 ans si Lindy Ruff a encore ce qu'il faut pour amener une équipe qui bat de l'aile en séries éliminatoires, la commande va être lourde. Puis chose certaine, moi je pense qu'il y a encore une fois des entraîneurs qui n'ont pas d'emploi dans la Ligue nationale, qui ont fait leur classe, qui ont le droit d'avoir une chance, qui ne l'auront pas parce qu'on continue de recycler. Ça, honnêtement, ça me déçoit. Oui, Lindy Ruff a un beau dossier. Là, il a remporté le trophée de Jack Adams, qui est remis à l'entraîneur par excellence en 2005-2006. Mais reste que ça fait déjà plus de 10 ans, presque 20 ans de ça. Je comprends pas que ce gars-là soit encore là. J'enlève rien à Lindy Ruff, j'enlève rien à ce qu'il a fait dans la Ligue nationale de hockey. Mais ça me prouve encore qu'on n'est pas prêt à donner une chance à des entraîneurs qui ont fait leur classe. Et ça, c'est un peu décourageant parce que moi, je gravite aux alentours d'entraîneurs qui aspirent à justement atteindre le prochain niveau. Et honnêtement, Sébastien, de voir des nouvelles comme ça, à chaque jour, c'est décourageant. Mais quand je te parle de Lindy Ruff, je veux te parler également d'entraîneurs qui sont disponibles et qui se magasinent peut-être justement une autre chance. Il y a Claude Julien qui est ici dans la région, lui, qu'on connaît très bien, qui a entraîné le Canadien de Montréal, entre autres, à deux reprises. Lui, également, 64 ans, il a été congédié du Canadien de Montréal au terme de la saison 2021. Puis là, on est en train de se dire, OK, est-ce que Claude Julien avait terminé sa carrière? Ben non, semblerait-il qu'il serait prêt à un nouveau défi. Et c'est drôle, là, ça coïncide vraiment avec ce que les sénateurs d'Ottawa recherchent comme entraîneur. Ah. Moi, je me demande même si Claude ne se trouvera pas du boulot chez lui à Ottawa. Parce que quand on parle de Claude Julien, on parle quand même d'un gars qui a remporté la Coupe Stanley avec les Bruins de Boston en 2011. Lui, par contre, comme je le mentionne, ça fait longtemps qu'il est dans la Ligue nationale. Est-ce que c'est vraiment la solution? Il y aura un impact immédiat, je pense, s'il débarque à Ottawa pour la première saison. Mais je pense qu'il faut voir à long terme. Rien enlever à Claude Julien, mais à un moment donné, il faut aussi passer au prochain appel. Alors, on verra, mais chose certaine, son nom va spéculer parce qu'il l'a annoncé publiquement lors d'un podcast récemment à Leafs Nation en disant, savez-vous quoi, je me sens prêt, je me sens dans des bonnes conditions pour accepter un nouveau défi. Alors, on verra. On sait qu'il y a plusieurs équipes là, qui vont être à la recherche d'un entraîneur. Tu sais, je vous parlais des Sénateurs, mais il y a les Sharks de San Jose également qui ont congédié leur entraîneur-chef. Et il y a des postes d'entraîneur-chef par intérim dans le circuit. Alors, on sait qu'éventuellement, ben, il va y avoir des postes de disponibles. Alors, c'est peut-être le signe de retour de Claude Julien derrière un banc de la Ligue nationale. Une chose qui est sûre, là, ayant fait cette annonce-là, Claude, là, il va avoir son téléphone qui va sonner.
Ah ben oui.
On va s'informer, on va l'inviter à venir prendre un café, puis peut-être voir un peu c'est quoi sa vision Puis j'espère que les sénateurs ne feront pas comme avec Patrick Roy et vont peut-être lui passer un coup de fil. Parce que pour les sénateurs, c'est plus différent, c'est qu'avoir un gars comme Claude Julien, un gars de la place, un gars local qui a une notoriété, pour une équipe comme Ottawa, ça pourrait être assez intéressant. Mm-hmm. Parce que là, je veux dire, tu sais, on a eu des entraîneurs par le passé à Ottawa qui n'avaient pas nécessairement de gros noms dans la Ligue nationale, sans dire nécessairement que c'est des entraîneurs établis. C'est-à-dire c'est des gars qui avaient roulé leur boss, qui étaient quand même âgés, mais qui n'avaient pas nécessairement l'expérience nécessaire pour justement là, être un entraîneur d'impact à Ottawa. Alors j'ai hâte de voir. Est-ce que Claude Julien est un bon candidat? Il y a Benoît Gros qui attend toujours sa chance.
Oh oui.
C'est un gars de l'Outaouais. Est-ce que lui sera considéré par Steve Staios? Ben ça, ce sera à suivre. Mais les sénateurs ont du boulot, puis ils ont des candidats, fait que c'est à suivre.
Ah, mais c'est tout un calcul, parce que tu me parles de gens qui ont remporté, oui, des Coupes Stanley ou il y a des trophées ou des mentions, mais il y a 10, 12, 15, 20 ans. Tu sais, je veux dire, c'est pas un gage de succès. Là. Je veux dire, j'ai eu des méritas en géographie il y a 20 ans, puis je suis pas prof de géo. Là. Tu sais, il m'a donné, c'est ça.
Non, t'as tellement raison, puis la Ligue nationale, on se tue à le dire que la Ligue nationale d'aujourd'hui est complètement différente de la Ligue nationale d'il y a 2015, tu sais, en 2015. Là. Dans le sens où ça a tellement changé qu'il faut que l'entraîneur ait une capacité d'adaptation qui soit phénoménale. C'est pour ça que je te dis que généralement, des entraîneurs recyclés comme Lindy Ruff, comme Claude Julien, sans leur manquer de respect, le message passe la première année généralement. La première année, on se dit que c'était la bonne personne.
Parce qu'on avait besoin de changement, parce qu'il fallait qu'il se passe quelque chose. Là.
Exact. Puis parce qu'ils ont une notoriété, puis parce que la première année, ça l'impressionne les joueurs. Mais à long terme, Sébastien, là, si on a une vision à long terme en tant qu'organisation, est-ce que ce sont les candidats idéaux? Je pense pas, moi. Honnêtement, je suis pas certain. Je pense qu'il faudrait justement aller chercher quelqu'un de l'extérieur, penser un peu à l'extérieur de la boîte, là, puis d'aller chercher un gars comme Benoît Gros, qui a tout gagné ce qu'il avait à gagner dans le monde du hockey, à part dans la Ligue nationale, parce qu'il n'a jamais atteint ce niveau-là, puis peut-être lui donner une chance, puis de voir qu'est-ce qu'il peut faire pendant 5 ans avec une équipe comme Ottawa. Moi, je suis persuadé que Benoît Gros connaîtrait énormément de succès avec les sénateurs, mais maintenant, ça va être de voir ce que la direction des sénateurs veulent prendre. Puis c'est également de voir aussi les autres équipes, parce que des fois, on pense que les sénateurs, le choix est logique pour eux, puis ils se font voler un peu leur candidat, un peu comme les Islanders de New York ont fait avec Patrick Roy.
Ouais, voilà. Ils l'ont un peu laissé partir, mais ça, c'est un autre dossier, on y revient. Ouais, ils sont pas forcés beaucoup, mettons. Sinon, ben Olivier, un grand merci. Oh non, tu avais un autre sujet, tu voulais nous parler rapidement des Coyotes, ben des pu-Coyotes, en fait, de l'équipe de hockey de Salt Lake City qu'on appellera autrement.
Oui, exact. Écoute, rapidement, là, ils ont été accueillis en héros. Hein. Ils sont allés visiter, justement, les installations à Salt Lake City. Ils ont rencontré les partisans. Écoute, ils sont arrivés à l'aéroport. Tu avais l'impression qu'ils arrivaient avec la Coupe Stanley dans les mains. C'était complètement fou. Mais, justement, là, on est en train de spéculer sur les noms parce qu'on a hâte de savoir. L'équipe va être en action dès la saison 2024-2025. On veut pas qu'elle commence la saison sans nom. Et là, ce qu'on a appris, c'est que du côté de l'état-major de Salt Lake City, ben, on avait déjà lancé, justement, un genre de, si tu veux, appel aux partisans à tenter de dénicher des noms. Rapidement, là, je vous donne les noms qui ont sorti en tête de liste. Là. Il y aurait le Mammouth de Salt Lake City ou le Mammouth de Utah, là, parce que ça va dépendre quel nom l'équipe va prendre. Le Ice, le Venom, le Blizzard, les Yeti, le Fury, les Outlaws et on a aussi le Utah Hockey Club. En tout cas, ce sont des noms qui ont sorti en tête de liste. Honnêtement, il n'y a rien qui m'accroche là-dedans.
Il n'y a pas de wow, non.
Non, il n'y a pas de wow. J'ai hâte de voir, mais on peut rester surpris. Parce que rappelle-toi, puis je fais un petit parallèle avec le Rouge et Noir d'Ottawa, ça avait été fait justement ça par les partisans. On avait lancé un appel à tous afin de définir un nom à l'équipe d'Ottawa quand ils sont revenus dans la Ligue canadienne de football. Et c'est les partisans qui avaient choisi ça. Je trouve le processus intéressant, mais il faut quand même s'assurer d'avoir des bases solides parce que tu ne peux pas nommer un nom d'équipe juste comme ça. Généralement, tu te bases un peu sur l'histoire de l'endroit. Tu te bases également sur un peu la notoriété que ce nom-là peut prendre. Alors, je suis pas certain que le Mammouth de Salt Lake City ou de Utah serait un bon nom à long terme pour une formation.
On verra bien où la sélection s'arrêtera. Olivier Beauregard, un grand merci pour ton temps aujourd'hui.
Merci, bye-bye.